amis qui nous rejoignent. Et donc, nous poursuivons notre réflexion sur éduquer dans un monde où Dieu n'est pas le bienvenu. Alors, cet après-midi, on va surtout réfléchir, et je suis content de voir qu'il y a des jeunes parmi nous, on va surtout réfléchir à ce patrimoine moral et spirituel que tout adulte digne de ce nom a souci de transmettre. Et on va relever un certain nombre de grandes questions existentielles qui se posent aux jeunes, questions auxquelles ils doivent trouver une réponse. Et le plus tôt, ce sera le mieux. Hier soir, j'ai cité cet adage anglo-saxon qui dit « Semez une pensée, vous récoltez une action. Pratiquez cette action, vous en faites une habitude. » Vivez selon votre habitude, vous vous forgez un caractère. Vivez selon votre caractère, vous écrivez votre destinée. L'importance de ce que je pense. Entre ce que je pense et ce que je vis, il doit y avoir un lien. Et à moins d'être schizophrène, et vous savez que la schizophrénie, c'est une affection en psychiatrie qui se traduit par le dédoublement de la personnalité. Eh bien, à moins d'être schizophrène spirituellement, ce que je pense va influencer ce que je vis, ce que je suis et ce que je deviens. D'où l'importance de penser juste pour vivre vrai. Alors, on parle de la transmission de l'éducation. La question de la transmission, avons-nous dit, c'est un grand défi. Et on peut dire que l'histoire de l'humanité se construit de génération en génération. Alors, je sais bien qu'il y a, je crois, c'est le philosophe Hegel qui a dit que l'histoire nous apprend, que l'histoire ne nous apprend rien. Parce qu'il semble bien que dans l'histoire de l'humanité, les hommes reproduisent les mêmes erreurs du passé. Alors qu'au moins on devrait savoir tirer profit et leçons des échecs et des erreurs du passé pour ne pas retomber dans les mêmes ornières. Dans l'Écriture, l'Éternel a pris grand soin de veiller à ce que, de génération en génération, se transmette un patrimoine. Et vous savez que dans l'histoire du peuple de Dieu, la sortie de l'esclavage du pays d'Égypte, c'était vraiment une date, une époque fondatrice dans l'histoire de la nation. Et l'Éternel a pris grand soin de veiller à ce que de génération en génération, les parents transmettent à leurs enfants le miracle extraordinaire que Dieu a produit quand il a fait sortir son peuple Israël qui était esclave au pays d'Égypte et quand il l'a fait entrer en terre promise selon la promesse qu'il avait faite à Abraham et dont l'accomplissement partiel s'est produit par la conquête du pays de Canaan. Je lis par exemple au psaume 78 au verset 5 à 7. Psaume 78 verset 5 à 7. Et merci à c'est Emmanuel, hein, notre ingénieur du son là. Alors je sais qu'il y a au moins Emmanuel qui suit, qui écoute ce que je dis parce que ça se verra, mais les autres sont quand même encouragés à suivre et je vous fais confiance, je vous en sais capable. En tout cas, grand merci à Emmanuel qui est très opérationnel et efficace. Psaume 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Vous voyez, c'est un commandement. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en... Alors par là, oh là là, ça c'est des gros mots, hein. Allez, aujourd'hui on ne parle plus comme ça, et je pense qu'entre jeunes, ce n'est pas le langage des jeunes, hein. Je crois que c'est le... Oui, c'est pas assez simple du subjonctif, un truc comme ça, hein. Bon, alors on va dire, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants... Et verset suivant, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas. On se croirait à la Comédie française, hein. Remarquez, de temps en temps, ça change un peu du langage des banlieues, hein. Ça relève le niveau, hein. Mais bon, il faut quand même parler du français courant que tout le monde comprend. Bon, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Et puis allez, le verset 8. Le verset 8. Il faut pédaler un petit peu, mais ça va venir. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. En français courant et normal, tout ça, ça veut dire que Dieu a le souci de la transmission de génération en génération de vérités fondamentales qu'il ne faut pas oublier et dont il faut tenir compte. À savoir, Dieu est intervenu, il a fait d'une façon miraculeuse et prodigieuse sortir son peuple qui était esclave au pays d'Égypte. Et rappelez-vous, hein, la traversée de la mer Rouge qui a englouti les Égyptiens, qui poursuivait les Israélites, et les Israélites se sont retrouvés, on va dire, à pied sec. Alors, l'image de la traversée, de la sortie du pays d'Égypte, sur un plan spirituel, elle correspond et elle symbolise ce qu'on a lu ce matin dans Colossiens 1, et c'est la raison pour laquelle on doit dire merci à Dieu, c'est qu'il nous a fait passer de l'esclavage à la liberté. Hein? Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière et il nous a fait entrer dans son royaume. Ça, on peut dire, c'est le grand miracle que Dieu a fait. Et finalement, ça concerne le message de la bonne nouvelle. Et c'est ce message de la bonne nouvelle qu'il est important de transmettre de génération en génération. Et certainement que la famille, je dirais, c'est la première église miniature qui a pour mission de transmettre la vérité de la parole de Dieu. Et donc, on peut dire que la transmission, c'est une chaîne de maillons qu'il ne faut pas rompre. Paul disait à Timothée, vous connaissez bien en 2 Timothée 2, « Ce que tu as reçu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Et ça, c'est une vision dynamique, on va dire, de la transmission et de la reproduction spirituelle. Et de génération en génération, le défi, c'est de transmettre le bon dépôt de la foi, pour employer le langage du Nouveau Testament. Alors, on a dit ce matin, en citant la parole du Deutéronome, chapitre 6, que le but de l'instruction, c'est d'aimer l'Éternel et d'aimer son prochain. Et nous avons dit qu'en tant que parents, notre mission, c'est de donner envie à nos enfants d'aimer Dieu de tout leur cœur et d'aimer leur prochain. Parce que selon Jésus, c'est l'essentiel de ce qu'il faut connaître et vivre, mettre en pratique. Et nous avons dit que la meilleure façon de transmettre, on peut dire qu'il y a deux manières de transmettre qui sont complémentaires. La première, c'est d'enseigner, c'est de transmettre un contenu, la vérité biblique, l'enseignement de la parole de Dieu. Mais la deuxième façon de transmettre consiste à incarner ce message, à le mettre en pratique et à le vivre. Et ça veut dire qu'on doit prêcher plus par notre vie que par nos paroles. Et bien sûr, c'est plus facile de faire le contraire, mais dans la transmission, c'est ce que nous devons faire. Alors c'est intéressant de réfléchir, comment Jésus a-t-il formé ses disciples ? Alors Jésus, d'abord, il aurait pu choisir de faire remplir le ministère tout seul. Je crois que le monde de l'époque aurait été évangélisé bien plus vite s'il avait fait tout seul. Il aurait perdu moins de temps. Il y a des moments, Jésus a dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je, hein? C'est comme si dans vous coachez une équipe, dans l'équipe, il y a des gens qui marquent des buts, mais contre leur propre camp, hein? Et vous savez, il y a toujours dans un troupeau, il y a une brebis qui a 5 pattes. Hein, et voilà, ça ne va pas dans le sens de la marche. Et parfois, ça pose plus de problèmes que ça résout des problèmes. Et Jésus a choisi 12 personnes. Alors c'est intéressant, c'est lui qui les a choisis. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai équipé, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alors il a pris cette initiative. Et puis comment Jésus les a-t-il formés ? Eh bien, il a passé du temps avec eux. Et ça, nous en Occident, la formation, on a une conception très académique et très théorique de la formation. il faut s'asseoir dans une salle de classe et puis il faut écouter quelqu'un parler. C'est la formation académique et elle a ses points forts, mais elle a ses points faibles. Ceci dit, comme j'ai dit ce matin, demain matin, allez quand même en cours, hein, en classe, les élèves, les étudiants. Jésus, l'Évangile nous dit, il a passé du temps avec ses disciples. Aujourd'hui, le problème, c'est que les parents, ben, qui parlent force des choses pour nourrir la famille, eh bien, ils doivent aller au travail. Ils ont moins en moins de temps à passer avec leurs propres enfants. Hein, si on réfléchit bien, le temps qu'on passe avec nos enfants pour les influencer, je dirais, ou les éduquer, ben, par la force des choses, ça s'est réduit à peu de chagrin. Nos petits séraphins, nos petits chérubins, nos petits diablotins, hein, nos petits gamins, on va les confier à la nourrice qui va les avoir peut-être pendant les 8 heures du jour plus ou moins éveillés. Les parents les amènent aux aurores, ils les récupèrent le soir. Parfois, eh bien, on laisse la télévision faire l'éducation de ses enfants. C'est plus facile de les mettre devant la télé que d'être là et disponible. Alors, c'est vrai que parfois, avec nos chers ados, ils se plaignent que leurs parents ne sont pas disponibles. Alors, des fois, ils ont envie de parler avec eux. Et puis, le moment où les parents sont libres, eh ben, les ados n'ont rien à dire. Mais il y a d'autres moments où ils aimeraient bien que leurs parents ils se rendent disponibles. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais il faut quand même trouver le moyen de communiquer et de garder le cadre de la communication ouverte. Alors Jésus, il a passé du temps avec ses disciples. Dans Deutéronome 6, qu'on a lu ce matin, on voit que le Seigneur a enseigné à son peuple de transmettre d'une façon naturelle. C'est une pédagogie en situation, on pourrait dire. C'est pas uniquement pendant des heures de classe ou à un moment donné, mais c'est quand, au moment de se coucher, au moment quand on est en voyage, au lever. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas des TGV, il n'y avait pas des avions. Donc si on devait se déplacer, eh ben, on passait davantage de temps ensemble à marcher. Et certainement qu'il y avait davantage d'interactivité, hein, de contact. Autrefois, les familles étaient moins éclatées, on va dire. Sous le même toit subsistaient plusieurs générations. Hein. Il y avait au moins les grands-parents, et parfois les arrière-grands-parents. Donc, il y avait davantage de liens familiaux. Vous, les bien-aimés qui viennent d'une culture africaine, vous avez, ou antillaise, vous avez une vision beaucoup plus communautaire. Hein, de la famille, et ça je pense que c'est un point fort de votre culture. Nous les Européens, on est très individualistes, hein. Moi je me souviens début des années 80, quand on avait nos premiers enfants, notre pédiatre il nous disait, ben, je vois des jeunes mamans, leurs parents, leurs grands-parents, ils sont à 500 km de chez eux, ils lisent un bouquin sur les bébés, ils lisent deux livres, ils ont trois avis différents, parce que les experts, ils se contredisaient déjà à l'époque, et puis ils se disent, oh là là, les pauvres mamans, mais mon bébé, ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans les livres, et elles sont complètement perdues. Et le pédiatre, il nous disait, moi, je fais le boulot des curés et des pasteurs. Bon, il pensait que les pasteurs ou les curés, ils étaient bien placés pour donner des conseils sur l'éducation des enfants, mais il observait bien la solitude finalement des personnes qui se retrouvent avec un bébé, et Dieu sait si on a besoin de bénéficier de la sagesse et du savoir-faire, ben, de la maman ou de l'arrière-grand-maman qui a un peu plus d'expérience. Donc Jésus a passé du temps avec ses disciples, et c'est clair que nous les parents on doit tout faire pour passer du temps de qualité avec nos enfants. Si on réfléchit bien, nos enfants nous sont prêtés. Parce que le temps qu'ils passent chez nous, ben, chaque jour qui passe, ça fait une journée en moins. Hein. Alors je sais bien qu'il y a le phénomène Tanguy, comme on disait. Hein. Il y a des jeunes qui n'arrivent plus à décoller, ou du moins, ben, par la force des choses, s'ils n'ont pas un emploi ou s'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer le loyer. Ben, les parents, des fois, c'est vrai qu'ils sont rasoirs et barbants, mais ils sont quand même utiles. Hein, et voilà, c'est parfois un mal nécessaire. Mais en tout cas, nous devons, en tant que parents, tout faire pour non seulement maintenir un canal de communication ouvert avec nos ados, nos jeunes, mais tout faire pour sauvegarder un temps de qualité ensemble. C'est triste si un jeune dit « Oh, mais de toute façon, moi, mes parents, ils n'ont pas le temps pour moi. » Et moi, je sais que j'ai entendu parfois des enfants de pasteurs dire, ben, mon père, c'est super, il est disponible pour tout le monde dans l'église, mais moi, pour décrocher un rendez-vous, j'ai les miettes, quoi. Bon, je ne parle pas du tout du pasteur de votre église, hein. Je ne connais pas du tout et je ne veux pas déclencher un conflit international. Mais c'est clair que ça peut nous guetter et on a tous en général un emploi du temps et c'est important de remettre les priorités en ordre. Hein. Et en tout cas, Jésus a passé du temps avec. Et la formation, c'est d'en passer du temps avec et du temps de qualité. Alors on voit que Jésus, il a enseigné ses disciples. Et c'est intéressant de voir comment il les a enseignés. Hein. Il a utilisé toutes sortes de situations. C'était une pédagogie en situation. C'était incarné dans la réalité. Les disciples, ils voyaient des gens qui travaillaient dans les champs. Et puis Jésus dit, ben voilà, le semeur, il est sorti pour semer. Et là, les disciples, ils captent tout de suite. Hein. Ils étaient branchés sur le bon canal. Et ils voyaient un rapport entre ce qui faisait leur quotidien et ce que Jésus voulait leur enseigner. Donc Jésus les a enseignés. Et puis ensuite, après la théorie, ben, la pratique, hein, les travaux dirigés, hein, les TD, il leur a confié des tâches à accomplir. Et puis, il les a envoyés. Et en plus, il les a envoyés deux par deux. Ah. Alors, il y a certainement plusieurs raisons, hein, mais de vous à moi, dans un sens, c'est plus facile d'être tout seul que de travailler à deux. Hein. En général, on risque moins de s'embrouiller. Hein. Bon, encore que, vous savez, il y a des gens. Même ils sont tout seuls dans une salle, il y a trois problèmes de relations personnelles à résoudre. Hein. Même, il ne faut pas que le chat du voisin y passe à ce moment-là, parce que, bon, voilà. Mais en général, travailler à deux, ben, c'est plus difficile que travailler tout seul, mais évidemment, ça a d'autres avantages. Bon, quelqu'un a dit que le mariage, c'est fait pour résoudre des problèmes qu'on a à deux qu'on n'aurait pas si on était resté tout seul. Ben oui, mais. Quand on dit oui et quand on écrit bon pour accord, on sait à quoi on s'engage, hein, et on doit savoir pourquoi on a signé. Mais en tout cas, c'est très pédagogique d'être à deux, et l'Ecclésiaste dit bien que deux valent mieux qu'un, hein, parce que s'il y en a un qui tombe, eh ben, comment il va se relever, hein? Et en plus, l'Ecclésiaste est très, très concret, il dit ben, mieux vaut dormir à deux que tout seul, parce que si on a froid, qui va nous réchauffer? Bon, à l'époque, il n'y avait pas le chauffage central, mais enfin. Bon, puis remarquez, je pense qu'il n'y avait pas les températures qui font en ce moment. Alors Jésus a envoyé ses disciples au travail, mais après, il y a eu la phase évaluation. Et ça, c'est important, l'évaluation. On essaye de voir qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui doit être amélioré. Et on a besoin de cette phase d'évaluation. Jésus leur a reproché quand ils faisaient des grosses bourdes et il leur a dit la vérité dans l'amour. Il faut savoir accepter d'offrir des réprimandes et il faut savoir les accepter, les entendre. Dans la Bible, le roi David avait un fils, un de ses fils, Adonijah. Le texte nous dit que David n'a jamais adressé un seul reproche à Adonijah. Eh bien, le fiston, il a rendu monnaie de la pièce au paternel parce qu'il a voulu être calife à la place du calife. Rien de moins que cela. Et il a voulu prendre la place de son père et son père a été un fugitif, pourchassé, poursuivi par son fils. Là, vraiment, l'aiguille est dans le rouge. Donc, Jésus les a fait travailler en équipe, les a envoyés deux par deux, les a repris quand il le fallait. Il leur a confié des responsabilités. Il les a fait passer par l'étape évaluation. Et puis, Jésus a prié pour eux. Et puis, pour boucler la boucle, à partir d'un moment, Jésus, après avoir transmis la vision et les a envoyés en mission, eh bien, Jésus, il a dit au revoir et il les a quittés. Je trouve intéressante, d'un point de vue pédagogique, la manière dont Jésus a formé ses disciples. Et il y a certainement un cycle et il y a certainement des constantes que l'on retrouve. Alors, on parle de transmission. C'est intéressant de voir comment, dans la Bible, des hommes de Dieu ont transmis leur charge à la nouvelle génération. On n'est pas dans cette configuration où, comme on a entendu un roi en France, Louis XIV, qui aurait dit « Après moi, le déluge, hein ». Et Alors, il faut dire que ça, c'est un autre sujet, mais peut-être qu'il existe encore des hommes politiques qui ne voient guère plus loin que leur nez, et le bout de leur nez, c'est l'échéance électorale. Alors, ça peut exister, malheureusement, mais Dieu est le Dieu de l'histoire. Il a une vision globale et il a à cœur que son projet se réalise. Alors c'est intéressant, prenez Moïse et Josué. Alors Dieu a suscité Josué comme successeur de Moïse. Et dans Josué au chapitre 1er, c'est très fort, hein, vous devez connaître le texte, l'Éternel à plusieurs reprises, il dit, Josué, prends courage, prends courage, prends courage. C'est toi que j'ai choisi, je suis avec toi, et voilà la mission, voilà la feuille de route. On a dit ce matin que une de nos responsabilités en tant que parents, c'est d'encourager nos enfants, d'encourager nos ados. Et nos ados ne vivent pas dans un monde de bisounours. Et s'ils ne trouvent pas l'encouragement dont ils ont besoin dans notre famille, où vont-ils le trouver? Ça ne veut pas dire qu'on doit faire que du cocooning dans nos familles. Je pense qu'il y a plus de gens qui regrettent d'avoir manqué, je dirais, de cocooning que d'en avoir eu de trop. C'est une question de bon dosage. Mais en tout cas, l'Éternel a dit à Josué, Josué, courage, je suis avec toi. Et par grâce, ça va le faire. Et quelque part, nos ados, ils ont besoin de savoir qu'ils ont des points forts, ils ont des qualités qui sont de véritables atouts, qui sont des jokers qu'ils vont pouvoir faire valoir dans leur trajectoire professionnelle et qu'ils ont des capacités et une compétence bien à eux qui va leur permettre d'imprimer leur marque. Et s'ils ont cette confiance-là, s'ils ont cette bonne image d'eux-mêmes dans le bon sens du terme, eh bien, ils seront d'autant mieux équipés à affronter le monde extérieur qui n'est pas tendre. Pensez à David et à Salomon. Alors David a voulu construire un temple pour l'Éternel, mais Dieu a dit non, David, c'est pas toi l'homme de la situation. Tu as fait beaucoup de guerres, tu as répandu le sang, etc. Et puis David, sa vie a quand même été entachée par sa faute avec Bathsheba. Et donc Dieu a dit, c'est ton fils Salomon. Alors David a fait des préparatifs, il a préparé le terrain pour Salomon, son fils. Eh bien, question de succession, trop souvent, on voit parfois que plutôt que de préparer le terrain pour le successeur, il y en a qui préfèrent savonner la planche, hein. Et il y en a qui savent mettre des bâtons dans les roues. Non. Bon, en tant que parents chrétiens, notre souci, ça doit être de donner le meilleur pour amener nos enfants au meilleur d'eux-mêmes, par la grâce de Dieu. J'ai visité des églises où, malheureusement, la crainte numéro un du responsable spirituel, c'était qu'un petit jeune qui monte, qui monte, qui monte, et qui lui fasse de l'ombre, et qui un jour prenne sa place. Alors je peux vous dire que dans ce genre de configuration, c'est pas top, hein. On peut mieux faire. Et moi, j'ai eu le privilège de travailler avec Ralph Challis, vous savez, qui a écrit ce livre Si tu veux aller loin. Et dans son livre, Ralph, il dit, voilà, moi, ce que j'ai mis 50 ans à apprendre dans ma marche avec Dieu, eh bien, moi, je te le donne pour que toi, tu ailles encore plus loin que moi, je suis allé. Ah, ben ça donne envie, hein. Ça, c'est une vision dynamique du leadership et de la transmission. Et ça veut dire que chacun a sa carte à jouer et sa pierre à poser dans l'édifice. Et ça, me semble-t-il, c'est biblique. Et je crois que c'est dans l'esprit de 2 Timothée 2 qu'on a cité tout à l'heure. Alors, je pense encore à Paul et à Timothée. Paul, le général Bigeard de l'Évangile, hein, général 5 étoiles, hein, qui a roulé sa bosse aux quatre coins du bassin méditerranéen de l'époque. Quand il écrit le dernier écrit de l'apôtre Paul, c'est la deuxième lettre à Timothée. Timothée, c'est un jeune chrétien qui s'est retrouvé, j'allais dire à l'insu de son plein gré et bien malgré lui, responsable. Vous savez, il y a des personnes, c'est dangereux de les fréquenter, hein, parce que vous pouvez vous retrouver investi d'une responsabilité. Au fond de vous-même, vous pensez erreur de casting. Je ne suis pas la bonne personne. Pourquoi bingo, c'est tombé sur moi? Si vous éprouvez ça, bienvenue au club. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Et je pense que le jeune Timothée, au fond de lui, il avait plutôt une image assez défavorable de sa personne. quand Paul écrit aux Corinthiens, il dit, si Timothée vient, faites en sorte qu'il ne se considère pas comme quantité, comme quantité négligeable. Timothée, bon, alors il y a des personnes, vous savez, ils ont une image tellement positive d'eux-mêmes que quand ils se regardent dans le miroir, il faut deux miroirs, parce que leur personne ne rentre pas dans un seul miroir. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, à l'opposé, s'excusent d'exister, se cachent sous la moquette ou derrière la tapisserie et disent « Non, non, mais moi, je suis zéro, zéro pointé, je suis nul, j'ai rien, voilà. » Et je pense que Timothée, lui, il souffrait d'un complexe d'infériorité. Et Paul va lui dire « Timothée, regarde-moi là, là, là. » Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et Paul va encourager son jeune protégé. Et quand on lit 2 Timothée, c'est littéralement le testament spirituel que l'apôtre va transmettre à la jeune génération. Et chez Paul, on sent cette passion, on sent cette vision brûlante, la transmission. Transmettre la flamme à cette jeune génération. Paul, quand il écrit la deuxième à Timothée, il n'est pas assis sur son canapé cuir pleine fleurs avec l'automatisation et en train de zapper sur les chaînes du satellite ou en train de pianoter sur son smartphone. Non, il est en prison. Et il va dire j'ai froid, apporte mon manteau, j'aimerais bien un bon bouquin là, qui va me remonter le moral, etc. Et Paul, malgré cette condition tellement défavorable, on sent son cœur vibrer quant à l'idée de transmettre à la jeune génération la flamme, la passion, la vision. Et qu'est-ce qu'il va dire à Timothée ? Grosso modo, il va dire quatre choses. Il va dire, Timothée, tu vis dans un monde qui marche la tête à l'envers. Bon, il ne le dit pas comme ça, hein, mais tu vis dans un monde qui est en pleine déroute, hein, qui appelle bien ce que Dieu appelle mal, qui appelle mal ce que Dieu appelle bien. Tu vis dans un monde où les gens aiment l'argent, ils aiment égo, ils aiment moi, le plaisir, mais Dieu, il leur raye de la carte. Ben, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. On est dans cette configuration-là. Timothée, tu dois être prêt à souffrir pour l'évangile. Timothée, prends courage, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et puis, Timothée, ce que tu as reçu de moi, il faut que tu le transmettes aux autres. Et puis, Timothée, repère les bons modèles qui vont t'inspirer. Ne te trompe pas de modèle et cherche à leur ressembler. Et puis Timothée, vise la qualité. Ne te contente pas du service minimum. Dans une grande maison, il y a des vases d'or, il y a des vases d'usage courant, quotidien. Et Paul dit, Timothée, vise l'excellence. Ne te contente pas du bas de gamme, du service minimum. Cible les bonnes priorités et fais preuve d'endurance. Timothée, tu dois avoir le courage dans le monde dans lequel tu vis de planter le drapeau. Prêche l'évangile. Rien et annonce la parole. Rien que la parole, toute la parole. Oui, Timothée, tu vis dans un monde où les gens préfèrent un mensonge qui les arrange à une vérité qui les dérange. Eh bien, Timothée, plus que jamais, tu dois planter le flambeau de l'évangile et avoir le courage de tes opinions. Parce que Jésus revient et on aura des comptes à rendre à Dieu en tant que juge. Donc, Timothée, accomplis fidèlement ton service. Donc, voyez que Paul va encourager son jeune protégé. J'aime bien ce terme, protégé. Aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, on parle de plus en plus de mentorat ou de coaching. Ah, ce n'est pas des mots très français, tout ça. Mais l'accompagnement, passer du temps avec, s'investir dans la personne. Et ça, c'est l'œuvre d'un père spirituel qui a le souci de transmettre à ses enfants spirituels. Alors voilà, on a parlé de quelques exemples de la manière dont le flambeau a été transmis à la jeune génération. Élie et Élisée, oui, on pourrait effectivement... qu'est-ce qu'on peut retenir d'Élie et Élisée ? Qu'est-ce qui sort dans la transmission ? Le manteau, oui, mais bon, c'est pas le manteau, l'habit ne fait pas le moine et le manteau ne fait pas le prophète. Oui, oui, l'histoire du manteau, alors c'est symbolique, c'est vrai. Il y a eu un transfert de charge, hein, et puis Dieu a approuvé, a cautionné, puisqu'il a répondu à la demande de Élie, de Élisée. Oui, il y aurait bien d'autres personnes, hein, d'exemples qui illustrent bien ce point de la transmission. Alors moi, je voudrais maintenant réfléchir d'une manière plus concrète et pratique sur quel est le capital que nous, les parents chrétiens, nous voulons transmettre à nos jeunes, à nos enfants, à nos adolescents. Hier, je disais qu'il y a des parents, leur préoccupation majeure, c'est de transmettre à leurs enfants un compte-titres avec plein de sicards à la bourse. Alors, gloire à Dieu si vos moyens vous permettent d'avoir une telle ambition. D'autres ont le souci de transmettre de la pierre, hein, des logements ou des maisons. Bon, on n'est pas au Monopoly, mais il semble qu'il y en a. Que pour certaines personnes, ça semble aussi facile que comme quand on joue au Monopoly, d'acheter un hôtel ou je ne sais quoi. Mais je veux croire que nous, en tant que parents chrétiens, nous avons une ambition autrement moins matérielle et autrement plus spirituelle que de transmettre à nos enfants. Et je voudrais suggérer dans 5 directions différentes des choses que nous avons à cœur de transmettre, que nous devrions avoir à cœur de transmettre à la jeune génération. D'abord, en considérant la personne des jeunes et leurs besoins, la première chose qu'on veut leur communiquer, c'est qu'ils ont une valeur aux yeux de Dieu. Et le problème, c'est qu'ils vivent dans un monde, vous les jeunes, vous vivez dans un monde où on juge de la valeur d'une personne à partir de critères qui, du point de vue de Dieu, ne sont pas acceptables. On va juger la valeur d'une personne selon, oui, n'ayons peur des mots, la couleur de sa peau, selon son look, selon ses diplômes, selon son statut social. Hein, on dit que monsieur Intel vaut tant de kilos euros sur le marché de l'emploi. Voilà, ben, y en a qui pèsent plus lourd que l'autre, hein. Et il y a des gens qui peuvent être en surcharge pondérale sur le marché de l'emploi. Ils pèsent moins lourd que d'autres gringalets qui... voilà. Donc, on vit dans ce monde-là. Et nos enfants ont besoin de savoir que leur valeur, elle dépend du fait que Dieu les a créés à son image. Nous connaissons un cher ami, on en a parlé hier soir, il est trisomique. Ce cher ami, aujourd'hui, il doit avoir la trentaine, hein, bien passé. Mais moi, quand je suis dans son église et qu'il chante les louanges du Seigneur, ah ben, je peux vous dire, je pense qu'il connaît, il doit pas connaître la différence entre un do et un mi, mais quand il faut louer le Seigneur, ben, c'est de tout son cœur. Et moi, je me dis, quand je l'entends et quand je le vois louer le Seigneur, je me dis, waouh, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas son handicap, mais lui, spirituellement parlant, ben, il donne envie, hein, d'être chrétien, parce que vraiment, c'est la joie qui vient du cœur. Et voilà quelqu'un qui, il est trisomique. Mais en attendant, dans le royaume de Dieu, je pense qu'il a compris, que, un, Dieu l'aime, que ses parents l'aiment tel qu'il est, et puis lui, bah, il donne son amour à tout ce qui bouge, hein. Il est tellement généreux et ils ont de grandes leçons à nous donner, ces personnes-là. Donc, nos jeunes, nos ados, ils ont besoin de savoir qu'ils ont une valeur devant Dieu. Et nous reconnaissons cette valeur. Ils ont été créés à son image. Quoi qu'ils soient, quoi qu'ils deviennent, même s'ils ne sont pas brillants à l'école, même si plein de conditions qu'on aimerait poser ne sont pas satisfaites, rien n'enlève le fait qu'ils ont une valeur fondamentale. Et cette valeur, ça provient du fait qu'ils ont été créés en image de Dieu. Et cette valeur, le monde, la société, gomme, oblitère cette valeur. Elle la met complètement à l'écart. Et c'est affolant. Je n'ai plus le nombre exact de tentatives de suicide chez les jeunes, mais c'est affolant. Et je ne parle même pas de l'étranger, mais en France et en Île-de-France. Toujours en rapport avec la personne et les besoins du jeune, on veut que nos jeunes comprennent que être, c'est plus important que paraître. Et on vit dans la société du paraître. Je parlais du look, l'image, l'extérieur, mais devant Dieu, être ce que je suis intérieurement, c'est plus important que ce que je donne à voir extérieurement. Ou c'est plus important que être, c'est plus important que avoir. Parce qu'aujourd'hui, on va juger de l'importance d'une personne à l'épaisseur de son compte en banque ou de ses avoirs placés en bourse. Mais du point de vue de Dieu, hein, vous connaissez la belle parole dans 1 Samuel 15, l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Et nos jeunes ont besoin de savoir que la beauté intérieure devant Dieu, c'est ce qui compte. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger son extérieur, mais vous m'avez compris. On veut que nos jeunes comprennent qu'ils doivent prendre confiance en eux. Ils ont des atouts à faire valoir. Ils ont des compétences, ils ont des capacités. Moi, il y a une question un peu, pas piège, mais qui bouscule un petit peu, que j'aime bien poser aux jeunes. C'est quelle différence ça aurait fait sur la planète Terre si tu n'avais jamais existé? Non, mais je suis d'accord que c'est une question un peu hard, hein. Je pense que c'est le genre de conversation que les jeunes ils ont entre eux. Mais autrement dit, qu'est-ce que moi j'aimerais laisser derrière moi une fois que je ne serai plus de ce monde? Parce que dans l'éthique chrétienne, personne n'est le fruit du hasard ou de la nécessité. Je ne suis pas ici par accident. Même si je n'ai pas été voulu par mes parents, Dieu a un projet pour moi. Et même avec des gens que l'on estime valant moins que rien, Dieu peut faire quelque chose. Et il y a de très beaux exemples qui illustrent cette vérité. C'est important que nos jeunes, ils prennent confiance dans leur capacité, par la grâce de Dieu, que Dieu leur a donnée. Et puis, c'est important que nos jeunes sachent qu'ils appartiennent à une communauté qu'on appelle la famille. C'est important que nos jeunes sachent que quoi que je devienne, quoi que je fasse dans la vie, il y a un endroit sur la planète Terre où j'ai le droit de revenir tel que je suis. C'est l'histoire du Père rempli d'amour. Luc 15, la parabole du fils prodigue, qui a fait tout ce qu'il fallait pour ne plus mériter d'être le fils de son père. Et quand le fils, qui a fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer, il revient à la maison, le paternel le reçoit les bras grands ouverts. C'est une histoire poignante et ça illustre l'amour inconditionnel de Dieu. Et quelque part, nos jeunes, ils doivent savoir que nous sommes ses parents et le métier des parents, c'est d'aimer. Même s'il y a des jeunes qui rejettent leurs parents, ça peut exister bien sûr, mais les parents, rien ne doit les empêcher d'exercer leur métier, entre guillemets, aimer, aimer, aimer. Deuxièmement, dans le domaine de la vie spirituelle, qu'est-ce que nous, en tant qu'adultes, on aimerait communiquer à nos enfants? Eh bien, on veut qu'ils comprennent que quoi qu'ils soient, quoi qu'ils deviennent, Dieu les aime tels qu'ils sont, et non pas tels qu'ils devraient être ou tels qu'ils aimeraient être, mais tels qu'ils sont. Dieu les aime et les accueille tels qu'ils sont. C'est ça l'amour inconditionnel. On a dit que l'amour de Dieu ne fait aucune discrimination. Personne ne peut reprocher à Dieu. Vous savez ce que parfois certains étudiants peuvent reprocher à leur enseignant. Ah non, mais là, il m'a pris dans le collimateur, il m'a saqué, hein, parce que j'ai une sale tête qui lui revient pas, hein. Personne ne peut dire que Dieu fait ça avec lui, parce que l'amour de Dieu ne connaît aucune discrimination. Au plan spirituel, ce que nous voulons communiquer à nos enfants, c'est qu'il est possible d'avoir la certitude de son salut. Dès lors que je crois que Jésus est mort à ma place et que le pardon, il m'offre gratuitement le pardon de mes péchés, et si je veux l'accepter, eh bien c'est tout bénéfice pour moi et c'est possible sans devenir présomptueux de pouvoir dire par la grâce de Dieu, j'ai l'assurance de mon salut. Et c'est important que nos jeunes, ils sachent comment faire la paix avec Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. Je comprends que Jésus a endossé ma culpabilité. Lui qui était innocent, il a été traité comme un coupable pour que le coupable que je suis puisse être traité comme un innocent. C'est ça le miracle de la bonne nouvelle. Et au moins que nos enfants, nos ados puissent connaître le contenu du message de l'Évangile et puis se positionner en connaissance de cause. Et ce que nous voulons en tant que parents, c'est donner envie à nos enfants de rester connecté à Jésus. Et puis après être connecté à Jésus, il faut rester connecté à l'Église. Si tu dis que tu aimes Jésus, bien tu dois aimer la famille de Jésus. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens certains vont vous dire Dieu, d'accord. La Bible, oui, ok. Jésus, pas de problème. Mais l'Église, les frères et les sœurs, les chrétiens, non merci, j'ai donné et j'en veux plus, c'est pas ma tasse de thé. Non, ça fait partie du package. Mais en tout cas, dans un premier temps, un jeune, il a besoin d'abord d'être connecté à Jésus. Et une fois qu'il s'abreuve à la source d'eau vive, eh bien, il doit comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre, et de même qu'il a voulu un papa et une maman pour les enfants, de même pour les enfants spirituels, eh bien, il y a une famille spirituelle qui est l'Église. Dans le domaine, troisièmement, dans le domaine des valeurs et des convictions. La jeunesse, c'est l'époque où on doit acquérir des matériaux de qualité pour pouvoir construire un projet de vie à long terme. Et ça, on construit un projet de vie avec des convictions, avec des valeurs. Et le drame, c'est que les jeunes qui ont eu entre, on va dire, 12 et 25 ans en l'an 2000, pour la première fois dans l'histoire, ils ont été catapultés sur la planète Terre. C'est-à-dire, c'est un monde où on a balayé la morale des 10 commandements. Et le drame, c'est qu'on n'a rien mis à la place. Et donc, il y a un vide. Et on a parlé de la génération sans père ni repère. Et le problème, c'est que si on évacue la morale des 10 commandements, qu'est-ce qu'on met à la place? Et on n'a rien mis à la place. On a dit, il est interdit d'interdire. Chacun voit midi à sa porte. Chacun fait comme il le sent. Toi, tu peux appeler ça bien. Moi, je peux l'appeler mal. C'est complètement une sorte de déconstruction et de dérégulation. Donc, c'est problématique. Et nos jeunes ont besoin de savoir que il y a des valeurs, il y a des lignes blanches à ne pas franchir. Hein, c'est comme celles qui sont au milieu de la chaussée. Il y a des limites, il y a une différence entre ce que Dieu appelle bien et ce qu'il appelle mal. Et le plus vite on les accepte, ces limites, le mieux on s'en portera. On veut aussi, en tant que parents, développer chez nos enfants un esprit critique dans le bon sens du terme, qui va stimuler leur capacité de discerner la différence entre le bien et le mal. Et dans le livre des Proverbes, le livre de la sagesse nous invite à observer et à tirer leçon de ce que nous observons. Et on sait tous que le bien est l'ennemi du meilleur. Et il faut aiguiser cette capacité de discerner la différence entre le bien et le mal, entre le bas de gamme et le haut de gamme, comme on disait. Dans le domaine du comportement, quatrièmement, qu'est-ce qu'on veut communiquer à nos enfants? Eh bien, on veut leur communiquer que dans la vie, on a des privilèges, on a des avantages, mais on a aussi des devoirs et des responsabilités. Il n'existe pas de planète sur la Terre où vous pouvez essayer de trouver un voyagiste qui vous garantit l'aller, parce que le retour n'est pas garanti encore, avec un satellite pour aller je ne sais sur quelle autre planète qui n'a pas encore été complètement découverte. Mais sur aucune planète, il n'y a que des avantages et des privilèges sans aucune contrepartie. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, vous les jeunes, vous baignez dans un monde où d'un côté, on vous dit « fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux et avec qui tu veux ». T'es libre. Et bien des gens veulent vous faire croire que être libre, ben c'est la licence. Mais ça, c'est un mensonge. Le diable avait fait miroiter à nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Eh bien, si vous pouvez manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous saurez que vous êtes Dieu. Et bien sûr, le diable il caresse dans le sens du poil. Hein, et il fait miroiter un paradis, mais c'est un paradis qui, au final, ressemble à l'enfer. Et cette capacité de discerner, de décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, semble-t-il, c'est ça qui consiste à manger du fruit de l'arbre défendu. C'est se prendre pour Dieu. C'est fixer ma propre norme. Je n'écoute pas ce que Dieu dit, mais je fixe moi-même la différence entre le bien et le mal. Eh bien, c'est ce que le diable avait fait miroiter à nos premiers parents, et c'est ce qui les a fait tomber dans la révolte contre Dieu. Donc, on veut que nos jeunes comprennent qu'ils ont des privilèges, mais ils ont des responsabilités, des obligations. Et il faut assumer. Il y a beaucoup trop d'irresponsables dans notre monde. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, bien des gens qui sont coupables veulent se faire passer pour des victimes, et ils font passer les véritables victimes en coupables. Et là, on inverse complètement les rôles. On veut que nos jeunes comprennent qu'on récolte ce qu'on a semé. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. Si tu as fait une bêtise, eh bien, c'est à toi d'assumer. Et la solution, c'est pas dire non, c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle. Tu dois assumer pour ta pomme la part de responsabilité qui te revient. Et plus on le plus vite on enseigne ça à nos enfants, eh bien, le moins de chances nos enfants ont d'adopter des conduites irresponsables. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des bêtises plus grosses qu'eux et qui, au fond, disent non, 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 mais c'est pas de ma faute, ou qui vont trouver toutes sortes de raisons pour faire croire que c'est pas eux qu'il faut incriminer. Et puis, dans le domaine du comportement, on veut encourager nos ados, nos jeunes, à l'idée que pour chaque problème, il y a une solution par la grâce de Dieu. On n'est jamais dans une situation de non-retour, même si la situation est dramatique. Avec Dieu, il y a toujours une issue de secours, une planche de salut. Et puis, en cinquième lieu, en dernier lieu, ce qu'on veut communiquer à nos jeunes, à nos ados, c'est l'importance des relations personnelles. Et dans le rapport à autrui, on veut leur faire comprendre que, eh bien, il y a un temps pour recevoir, mais il y a un temps pour donner. Et Jésus a même dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand Jésus a dit ça, il ne parlait pas des paires de baffes, hein, contrairement à ce que certains qui ont l'esprit mal tourné. Non. Moi, j'observe les personnes les plus épanouies, qui sont bien dans leur peau, ce sont des personnes qui sont tournées vers autrui. Il y a des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes. Et rien que pour elles, il faudrait qu'elles aient deux pasteurs à temps plein et trois anciens et un diacre pour s'occuper d'elles, pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs les coucouner, mais jusqu'à peu plus. Hein. En général, ces personnes-là, elles sont épuisantes. Puis elles sont épuisées, et puis elles sont comme le séjour des morts, elles ne disent jamais assez. Alors que l'Écriture, elle parle du contentement, hein, de savoir se contenter de l'état dans lequel on se trouve. Et en tout cas, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Beaucoup de gens pensent que aimer, c'est prendre, alors que dans une optique biblique, aimer, c'est donner. Dans le domaine du rapport à autrui, on veut, comme on a dit ce matin, encourager nos jeunes et nos ados à l'idée que le capital le plus précieux qu'on ait à gérer sur la planète Terre, c'est pas notre compte en banque, mais c'est nos relations personnelles. Parce que les relations personnelles, je sais bien qu'on vit à l'ère du jetable, mais aujourd'hui, les relations personnelles, elles ne sont plus durables. Et dans la vie, comme quelqu'un a bien dit, on n'a jamais vu un corbillard suivi d'un camion de déménagement. Bon, ça peut arriver, mais en général, on ne va pas enterrer tous les biens matériels du défunt dans sa tombe. Hein, sinon, il faudrait des carrières. Bon. Mais la vie est faite de relations. Et finalement, encore une fois, ce n'est pas pour rien que Jésus a résumé toute la loi. Tu aimeras. Hein, Dieu, et puis tu aimeras ton prochain. Donc, je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier sur l'autel de la réussite professionnelle et financière, femme, famille, enfant. Mais bien souvent, ces gens-là, au bout d'un certain temps, eh ben, la femme les a quittés, hein, parce qu'il n'y a pas que l'argent, même si l'argent, ça aide à faire commission, ça ne fait pas tout dans la vie, hein. Donc, dans une optique chrétienne, les relations personnelles, ce n'est pas un luxe. Et c'est les relations personnelles, quand elles sont bien adaptées, elles produisent les satisfactions les plus profondes de l'existence. Ces mêmes relations, quand elles sont en souffrance, elles induisent les blessures les plus cuisantes de l'existence. À telle enseigne qu'il est permis de se poser la question, ça pourrait être une question de bac de philo, hein? Allez, dans le temps libre entre minuit et 6 heures du matin, réfléchissez à cette question. Est-il possible de réussir sa vie en échouant dans le domaine des relations personnelles? Hein? Voilà. Bon, ben, le sujet est donné à vos copies. Mais toute plaisanterie mise à part, franchement, je pense que on a tous compris que quand on est en harmonie avec quelqu'un, ben, on risque moins d'enfoncer la sécurité sociale dans le trou, hein. On risque moins de faire une dépression nerveuse ou d'attraper un ulcère à l'estomac et prendre du Temesta pour dormir le soir. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui prennent un produit pour dormir ou pour ne pas dormir ne sont pas spirituelles, mais voilà. Alors maintenant, pour terminer, j'aimerais suggérer huit grandes questions. Et là, si les ados qui n'ont pas eu leurs 8 heures de sommeil la nuit dernière, ils ont dormi jusqu'à maintenant, c'est maintenant où il faut se réveiller. Hein. Je suis gentil, je vous le dis. Non, non, mais je sais que j'en ai vu quelques-uns qui. Mais c'est pas irrécupérable. Et vous avez encore 5-10 minutes à tenir et je pense que vous en êtes capable. Alors, je suggère quelques grandes questions existentielles auxquelles les jeunes doivent trouver une réponse. Et plus vite ils auront trouvé la réponse, eh bien mieux ils s'en porteront. Je vous rassure, il y a des gens qui ont 55 ans passés qui n'ont toujours pas trouvé la réponse aux questions que je vais vous poser. Donc, c'est dire à quel point c'est important. Alors, la première question à laquelle un jeune doit trouver une réponse valable, c'est qui suis-je? C'est la question de ma valeur personnelle. Qu'est-ce qui fait mon identité? Et ça, c'est une question importante, c'est pas simplement théorique, académique. Qui suis-je? Alors, on a apporté un élément de réponse. On a dit que Dieu nous a créés à son image. Je suis le fils ou la fille de, voilà, mes parents. On a besoin de savoir, c'est légitime, qui sont nos ascendants. On a besoin de savoir d'où on vient. On a besoin de savoir qu'est-ce qui fait que je suis moi, que je suis ce que je suis. Mais alors, et chacun a le droit d'être unique et irremplaçable. On n'est pas interchangeable. Et en même temps, chacun possède la même valeur aux yeux de Dieu, ayant été créé en image de Dieu. Si je crois que ma vie ne vaut rien, eh bien, je peux faire tout et n'importe quoi, et n'importe quelle bêtise. Et on sait qu'il y a des jeunes qui se donnent aux conduites à risque, au point de mettre, ben c'est un peu le jeu de la roulette russe, hein, au point de mettre leur propre vie, et parfois celle d'autrui, en danger. Et on sait que malheureusement, il y en a qui franchissent ce pas. Ben, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, trouver mon identité. Et là encore, la bonne nouvelle de l'Évangile, elle apporte une réponse pertinente à cette question. Aux yeux de Dieu, je suis pécheur. Mais en même temps, j'ai tellement de prix à ses yeux que Dieu n'a pas voulu me voir périr sans le connaître. Et il a payé, il a donné ce qu'il avait de plus cher pour racheter ce que la terre avait de pire. Ce qu'il avait de plus cher, c'est Jésus, son fils, qu'il a donné pour racheter ce que la terre avait de pire. C'est moi, pécheur que je suis. Et Dieu prouve son amour envers moi en ce que, alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Romains 5, 8. Deuxième grande question à laquelle. Donc la première question, c'est la question de ma valeur personnelle. Et c'est terrible de voir des personnes, des jeunes filles ou des jeunes garçons qui, physiquement parlant, sont bien sous tout rapport, mais intérieurement se trouvent bêtes, nuls ou moches, parce qu'on leur a toujours dit ce genre de choses. Ou on leur a dit que pour être bien accepté, bien être dans sa peau, il faut ressembler à tel top modèle. Et ça a fait souffrir des générations et des générations d'adolescents. Si ma valeur dépend uniquement des critères du monde, ben là, il y a du souci à se faire. Et on est mal. Et là encore, le message de l'amour de Dieu apporte une réponse pertinente à cette question, ma valeur, mon sentiment de dignité personnelle. Il vient du fait que j'ai été créé à l'image de Dieu. Deuxième grande question à laquelle un jeune doit trouver une réponse, c'est à qui est-ce que je cherche à ressembler? À qui est-ce que je cherche à ressembler? Quelle est mon idole, entre guillemets? Ou devant quel Dieu je suis prêt à m'agenouiller? Bon. On sait aujourd'hui que le pouvoir des médias, hein, les stars, enfin, les gens de la, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, autrefois ça s'appelait la Star Academy. Hein. Bon, je préfère regarder des émissions sur les animaux plutôt que de regarder bon, les télé-réalités. Mais bon, peut-être c'est parce que je suis trop vieux. Mais enfin, je me sens à peu près normal et pas mal dans ma peau. Même si j'ai pas des baskets Nike Air à 125 euros la paire. Mais bon, à qui est-ce que je cherche à ressembler? Quel est? On a parlé hier, on a dit que on a tous besoin d'un modèle auquel on cherche à ressembler. On apprend par imitation. Et Oui, il y a des sosies professionnelles. Oui, même Elvis Presley, j'ai vu hier dans le 20 minutes, je crois, en Australie, il était habillé comme Elvis et il y en a qui. Un autographe, Elvis, ben voilà. Bon, ah bah ben les masques, hein, faut arrêter de se la jouer. Mais c'est une question importante, d'autant que on finit par ressembler à l'idole que l'on adore ou au dieu que l'on vénère. Et vénère, c'est pas dans le sens. Oui, je précise, hein, le langage des banlieues. Hein. Bon, mais que l'on adore. Hein. Donc, il faut pas se tromper de modèle. Il faut pas se tromper de Dieu. Troisième question, c'est gérer mon rapport à l'autorité. Gérer mon rapport à l'autorité. Je dois décider à qui est-ce que je suis prêt à me soumettre. Alors, il y a des jeunes qui refusent de se soumettre à l'autorité de leurs parents. Pour X ou Y raison, ils méprisent leurs parents, ils malmènent l'autorité des parents. Je me souviens d'un pasteur avec les larmes dans ses yeux. Il corrigeait son fils de 4-5 ans et il lui disait avec des larmes dans les yeux, il disait, mon fils, si tu n'apprends pas à te soumettre à ton père terrestre, tu n'apprendras pas à te soumettre à ton Père céleste. Le respect de l'autorité, ça commence déjà dans la famille. Et les délinquants qui se retrouvent devant monsieur le juge, et pas une fois, deux fois ou trois fois, en général, si vous tracez leur parcours, ben vous observerez que, ben oui, ceci explique cela, hein. Déjà dans la famille, ils n'acceptaient pas l'autorité de leurs parents, ou les parents étaient absents, ou je ne sais pas, démissionnaires ou quoi. Eh bien, on récolte ce qu'on a semé. Et c'est clair que si on n'a pas appris à respecter l'autorité de nos parents, ben on aura du mal à respecter l'autorité des enseignants. On aura du mal à respecter l'autorité ben, du policier, et puis, etc. Hein. Gérer mon rapport à l'autorité. Il y va de ma sécurité. Et finalement, bibliquement parlant, l'Écriture exhorte l'enfant à se soumettre à l'autorité des parents, mais l'Écriture est très équilibrée. Elle dit bien que les parents ne doivent pas abuser de leur statut ou maltraiter leur enfant. Et bien évidemment qu'il y a des limites. Se soumettre à l'autorité des parents, c'est pas accepter l'abus d'autorité, on va dire, de parents indignes de ce nom, qui seraient des tortionnaires et des gens qui abuseraient de leur statut. Et malheureusement, il y a de ces cas dans notre société, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être traité de la même manière. Et maintenant, vous savez que un parent qui donne un châtiment corporel à son enfant, ça va être un délit maintenant, hein. Bon, ça pose d'autres questions. Mais en tout cas, une question importante que les jeunes doivent régler, c'est qui est-ce que je reconnais comme étant au-dessus de moi? Il n'y a que le diable qui refuse d'admettre quelqu'un au-dessus de lui. Et il ne veut surtout pas Dieu, parce que le but du diable, c'est de prendre la place de Dieu. Et l'antichrist, celui qui est contre le Christ, cherche à s'asseoir sur le trône de Dieu, se faire adorer comme Dieu et prendre la place de Dieu. Et l'antichrist, par définition, c'est un anarchiste. C'est quelqu'un qui ne veut pas de la loi de Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut pas de l'ordre et de l'harmonie que Dieu a voulu dans sa création. Et Dieu, qui est un Dieu d'ordre, a donné dans l'ordre de la création un papa, une maman pour les enfants. Moi, je voyage beaucoup dans les transports en commun. Je prends le train, et pas seulement en banlieue, mais sur les grandes lignes. Et je peux vous dire que je pourrais écrire un livre sur ce sujet-là. Je vois parfois des petits séraphins, des petits chérubins, des petits diablotins, des petits gamins, hauts comme deux pommes et demie, qui mènent la dragée haute à leurs parents. Et parfois, il y a le papa et la maman, costume, cravate, trois pièces, à mon avis, ils ont plus que le CAP. Eh bien, je peux vous dire que c'est ces petits bouts de haut comme deux pommes qui mènent leurs parents le bout du nez. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Elle dit pas, parents, obéissez à vos enfants. Mais moi, je me dis, quand je vois ça déjà à cet âge-là, et quand à 3 ans, quand ils rentrent à l'école, ils vont sortir des choses à la presse, qui pourrait vous faire froid dans le dos, on se dit, oh, il y a du souci à se faire plus tard s'il n'y a pas quelque chose qui est remis dans les clous, hein. Quatrième grande question à laquelle un jeune doit trouver une réponse, c'est assumer mes responsabilités, c'est gérer ma liberté. Gérer ma liberté. Et les jeunes ont besoin de comprendre que plus ils ont de liberté à gérer, plus ils auront de responsabilités à assumer. Alors c'est facile de demander davantage de liberté. Et Dieu merci, c'est vrai que l'adolescence, la jeunesse, on est de plus en plus émancipé de l'autorité des parents. Et c'est normal, on est en train d'accéder à l'autonomie. On va voler de ses propres ailes. Mais y a quand même des limites. Et il faut admettre qu'il n'y a pas de planète, comme on a dit, où j'ai que des droits, que des avantages et que des privilèges. Mais je vais devoir assumer. Et plus vite on comprend que en réclamant davantage de liberté, j'ai davantage de responsabilité, mieux je vais être équipé pour affronter les défis de la vie en société. Cinquième grande question à laquelle il faut trouver une réponse, c'est mon rapport à autrui. Mon rapport à autrui. Vivre sans les autres, c'est impossible, mais vivre avec les autres, c'est difficile. Aïe, aïe, aïe. Comment établir des relations satisfaisantes? Et comment ne pas avoir que des embrouilles avec les autres? Bon, ça rejoint un peu la question d'apprendre à résoudre les conflits. Apprendre à développer des relations d'amitié, des relations de respect mutuel qui vont durer dans le temps. Hein, parce que on voit en tout cas que dans le domaine du mariage... maintenant, un couple, au bout de 3-4 ans, qui est toujours ensemble, on se dit, mais quel est le problème chez eux pour qu'ils soient encore ensemble, hein ? Il y a un problème, parce que la norme a tellement été revue et corrigée. À l'ère du jetable, les relations personnelles ne sont plus durables, comme on disait. Sixième grande question, courage, il n'en reste plus que trois, deux après celle-là. Sixième grande question... c'est comment développer un système de valeurs. On a dit que l'adolescence, c'est l'époque où on doit acquérir, accumuler des matériaux de qualité qui vont m'aider à construire un projet de vie. Et ça, la question, c'est les valeurs et les convictions. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Mes parents m'ont emmené à l'église. Ils m'ont dit, il ne faut pas toucher la drogue. Ils m'ont dit, il ne faut pas braquer les banques. OK. Moi, je vais décider par moi-même qu'est-ce que je considère bien, qu'est-ce que je considère comme étant mal. Comment est-ce qu'on développe des valeurs ou des convictions ? Ben, c'est dans le livre des Proverbes, c'est en observant la nature, en observant le monde des humains. Le livre des Proverbes, va vers la fourmi paresseuse, là, toi qui n'en fiche pas une rame. Regarde la fourmi, elle n'a pas de chef, elle n'a pas de contremaître, mais elle est bosse, hein, elle travaille. Hein. Bon, vous voyez l'humour un peu grinçant et décapant du livre des Proverbes. On apprend l'importance des valeurs quand on entend le témoignage des autres ou quand on observe autour de soi. Peut-être on a connu des gens et puis X années plus tard, on voit ce qu'ils sont devenus, comment ils ont évolué. Ben, y a des leçons à tirer, tout cela. On peut tirer des leçons d'un bon livre qu'on a lu ou d'un bon film qu'on a regardé. Il y a des leçons, il y a des principes à tirer. Et c'est comme ça que peu à peu, on se forge des valeurs. Alors bien sûr, le meilleur endroit pour trouver les bonnes valeurs, c'est dans la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est ça qui va nous aider à accumuler un matériau de qualité pour construire un projet de vie qui va tenir dans la durée. La septième grande question à laquelle un jeune doit trouver une réponse, c'est la question de l'engagement. M'investir pour me rendre utile. M'investir pour me rendre utile. En général, les jeunes, ils sont entiers dans leur engagement. Quand ils croient en quelque chose, ah ben, ils sont prêts à ne plus se brosser les dents, ne plus manger ou ne plus faire je ne sais pas quoi, mais ils sont prêts à remuer ciel et terre pour mouiller le maillot pour la bonne cause. Et en général, les jeunes, ils sont généreux. C'est intéressant de voir ceux qui s'engagent, par exemple, dans l'action humanitaire. Hein. Ils ont le sentiment d'être utiles, de pouvoir soulager une... Par exemple, moi, j'ai lu l'histoire d'une personne qui dont la famille avait été profondément victime d'injustices flagrantes. Et rien que ça, ça lui a donné envie de faire des études d'avocate pour défendre la cause des gens qui sont malmenés et dont le droit n'est pas reconnu. Ça, c'est une motivation qui les booste, hein. Et voilà. Alors, les jeunes ont besoin de répondre à la question, l'énergie, l'idéal que j'ai, les billes que j'ai, où est-ce que moi je veux les investir ? Dans quelle filière, dans quel domaine je veux m'engager pour imprimer ma marque. Et c'est clair que nous, les parents, on doit les encourager. Bon, et parfois, ce qui est un peu regrettable, c'est les parents qui imposent à leurs enfants l'orientation professionnelle. Hein. Le père qui a toujours rêvé d'être cheminot, de travailler à la SNCF et qui va bassiner le fiston pour « il faut que tu entres à la SNCF, il y a des avantages ». Bon, on en sourit, mais parfois, il vaut mieux pas tomber dans ce travers. Et puis, last but not least, la huitième grande question à laquelle il faut trouver une réponse, c'est découvrir le sens de ma vie et le secret du bonheur. Le sens de ma vie et le secret du bonheur. Qu'est-ce qui fait que je suis moi, que je suis que je deviens ce à quoi je crois être appelé ? Ça, c'est une grande question. Et qu'est-ce qui m'épanouit et qu'est-ce qui fait que j'ai le sentiment de réussir ma vie ? Bon, waouh, on a pris le TGV, on était rapide. Hein. C'est à grand trait brossé. Mais je veux croire que tout parent digne de ce nom a le souci de donner le meilleur de soi pour ramener nos jeunes, nos enfants au meilleur d'eux-mêmes. On a dit hier qu'il n'existe pas de parents parfaits. Bon, ben ça, les ados, ils le savent, ils l'ont remarqué. Mais il n'existe pas non plus d'ados parfaits. Et bienvenue au club, on se donne la main. Alors, mieux vaut s'encourager. C'est pas évident pour tout le monde, c'est pas facile. Mais que Dieu nous soit en aide. Alors, y aurait-il questions, commentaires ? S'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir ce soir, pitié, c'est maintenant qu'il faut en parler parce que. On ne va pas se revoir demain matin. Moi, d'abord, je voudrais savoir, les jeunes, les ados, là, où vous vous reconnaissez un petit peu dans ce qu'on dit, où vous dites, oh, le monsieur, là, d'où il vient, là, c'est quoi ce qu'il veut nous dire ? On ne comprend rien.